débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. L'Assemblée Générale de l'ONU a fait le bilan ce week-end des objectifs du millénaire pour le développement, des objectifs définis il y a 15 ans, à l'aube du 21e siècle, pour tenter de réduire la fracture entre pays riches et pauvres. 8 objectifs avaient été définis pour venir à bout de la pauvreté et des sommes considérables ont été investies dans ce projet. Alors comment se concrétise-t-il 15 ans plus tard? Les objectifs du millénaire pour le développement ont-ils été atteints? On va en parler avec nos deux invités de ce soir. Je vous les présente tout de suite. Frédéric Roeder est responsable plaidoyer de l'organisation One France. Bonsoir à vous, Frédéric Roeder.
Bonsoir.
Et puis Hubert Demilly est expert sur l'aide publique au développement à l'AFD, c'est l'Agence française de développement. Bonsoir, Hubert Demilly.
Bonsoir.
Alors, pour donner la mesure de l'ambition de ces OMD, ces objectifs du millénaire pour le développement, je vais les énumérer rapidement. Éliminer l'extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire pour tous, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le sida, le paludisme et d'autres maladies, préserver l'environnement et mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Ambitieux comme programme. Lequel de ces objectifs, selon vous, Frédéric Roeder, a connu les résultats les plus probants?
Je pense que déjà les OMD, de manière générale, ont vraiment accéléré les progrès qu'on a fait dans le domaine du développement. Je pense que le premier, donc la réduction de l'extrême pauvreté, est certainement celui qui est le plus important parce que c'est le plus parlant. Je veux dire, réduction de l'extrême pauvreté. Aujourd'hui, on vise même l'éradication de l'extrême pauvreté. Mmh. On a fait d'énormes progrès depuis 1990, réduction de 60%. Donc ça montre bien que c'est possible. Après, si je pourrais donner un deuxième exemple, je pense qu'on a fait d'énormes progrès dans le domaine de la santé. Là aussi, par exemple, encore au début des années 2000, il y avait quasiment personne en Afrique subsaharienne qui avait accès à des traitements antirétroviraux, des personnes séropositives. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 15 millions de personnes qui ont accès à ces traitements qui leur sauvent la vie. Donc, ces progrès ont été possible grâce aux objectifs du millénaire pour le développement. Et je pense que ce qu'ils nous disent aujourd'hui, ces objectifs et les progrès qu'on a réalisés depuis 2000, c'est qu'il faut aller plus loin parce que c'est possible.
Mmh. Est-ce qu'à contrario, il y aurait un de ces objectifs qu'on aurait peut-être négligé ou sur lequel on n'aurait pas réussi véritablement à faire de progrès?
Il y en a malheureusement plusieurs et je pense que celui qui où vraiment il faut qu'aujourd'hui on redouble d'efforts, c'est l'égalité femmes-hommes. Mmh. Par exemple, pour vous donner un exemple, c'est qu'on a réduit de moitié la mortalité maternelle, c'est énorme, mais si on regarde en détail, il y a des pays où la mortalité maternelle a même augmenté, et des pays comme par exemple l'Afrique du Sud, qui est à la base, a les moyens de lutter contre la mortalité maternelle. Ce qu'on voit aussi, c'est que deux tiers des analphabètes dans le monde restent des femmes. C'est le même taux qu'il y a 25 ans. Donc il faut vraiment qu'on accélère dans ce domaine parce qu'on ne pourra pas, par exemple, réduire ou éradiquer l'extrême pauvreté si on laisse de côté les femmes et les filles.
Alors, des progrès spectaculaires, inégaux, plus rapides manifestement en Asie, en Amérique latine, j'ai lu, qu'en Afrique. Vous pouvez nous expliquer pourquoi, Hubert Demilly?
Ou bien peut-être que les trajectoires sont différentes, les points de départ ne sont pas les mêmes, les conditions institutionnelles, les conditions d'accès aux capitaux, aux marchés ne sont pas les mêmes. Vous savez, le développement prend du temps. Les choses sont relativement bien orientées, comme le disait Frédéric Roeder à l'instant. Peut-être que l'essentiel est aussi dans la manière dont on mesure les OMD. C'est très difficile, on ne sait pas exactement. Oui. Les statistiques dans les pays les moins développés sont quelquefois un peu étranges et difficiles à exploiter. Je me demande si le facteur essentiel des OMD, finalement, avec le bénéfice du recul, ça n'a pas d'abord été leur très très puissant facteur de mobilisation de l'opinion. Rappelez-vous, dans les années 2000, on était en pleine décennie, à la fin de la décennie de fatigue de l'aide. L'aide internationale avait énormément reculé et le principal résultat peut-être des OMD, c'est qu'aujourd'hui on a à peu près retrouvé le niveau de 10 ans auparavant.
Alors vous voulez dire que les chiffres sont basés, enfin les résultats sont basés sur des chiffres qui sont donnés par les pays eux-mêmes et que les résultats ne sont pas forcément totalement fiables? Les pays ont un petit peu tendance à embellir le tableau, on va dire?
Ou pas forcément embellir, simplement il y a des données qui sont difficiles à obtenir, qui sont difficiles à mesurer, et surtout qui sont difficiles à mesurer régulièrement. Nul ne sait très bien quels objectifs ont vraiment été atteints, ni surtout quand. On sait globalement que la réduction de la pauvreté par deux est une réalité, que c'est surtout dû à l'Asie de l'Est, comme vous le disiez, à la Chine. Le reste, on sait que globalement les choses sont bien orientées, pour certains, pas pour tous, comme vous le disiez tout à fait justement. Mais en tout cas, le travail d'améliorer les appareils statistiques des pays en développement reste à faire et sera nécessaire pour la suite.
Donc vous êtes d'accord pour admettre qu'on est loin du tableau idyllique. On peut peut-être se poser la question de savoir pourquoi c'est finalement si difficile, malgré une volonté déclarée internationalement, de réduire la pauvreté. C'est quoi ? C'est la méthode, c'est la nature humaine, c'est le poids des habitudes ? Frédéric Roeder.
Alors, je pense que la réduction de l'extrême pauvreté de 60% est un grand succès. Donc, je serai plus positive que vous. Mais bien évidemment, ça reste un défi important, et notamment dans les pays les plus pauvres.
Il reste encore beaucoup de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté.
Tout à fait.
Il est vraiment faible, $1 par jour.
Presque 1 milliard de personnes vivent toujours avec moins d'un euro par jour. C'est un défi. Alors, tout d'abord, c'est tout à fait possible d'éradiquer l'extrême pauvreté, et c'est le nouvel objectif que la communauté internationale s'est donné ce week-end. On peut atteindre cet objectif d'ici à 2030. Je pense que ce qu'il faut, c'est en effet, il faut à nouveau une mobilisation générale comme on a pu la voir après l'adoption des objectifs du millénaire il y a 15 ans. Il faut absolument cette mobilisation de tous les acteurs, donc des pays du Nord et du Sud, et aussi des acteurs privés, des ONG. Je pense qu'il faut aussi, c'est réfléchir un peu mieux à comment orienter ou orienter nos efforts. Donc, je l'ai déjà dit, je pense qu'il y a 15 ans, on pensait qu'on pouvait tout simplement mettre en œuvre des projets de réduction de l'extrême pauvreté sans cibler en priorité les femmes et les filles, même si ce groupe de la population, quand même non négligeable, fait face à des défis tout à fait particuliers. Donc, par exemple, il y a des sujets de santé qui sont spécifiques aux femmes, en commençant bien évidemment par la grossesse. Et ça, c'est des choses, donc il faut pouvoir cibler ces populations en priorité. Ce qu'il faut aussi, c'est cibler notamment les pays qui en ont le plus besoin. Donc aujourd'hui, le plus grand nombre de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté se trouvent notamment en Inde et en Chine. Mais l'Inde et la Chine sont des pays qui ont déjà accès aux marchés financiers, qui ont des administrations tout à fait fortes et qui ont les capacités par eux-mêmes, mais bien évidemment avec notre aide notamment technique, à parvenir à des objectifs de réduction de l'extrême pauvreté très impressionnants. Ce n'est pas la même chose pour les pays les plus pauvres, les plus fragiles d'Afrique subsaharienne. Par exemple, pour la RDC ou Madagascar, on estime que 80% de la population vive avec moins d'un euro par jour. Donc ça, c'est des défis incroyables. Ils ont besoin de notre aide. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'aide au développement au niveau international ne va que à 25% vers ces pays les plus pauvres. Donc là, il faut tout simplement déjà réorienter ce qu'on a comme aide au développement.
Alors,
vers ces pays-là.
Demandons à Hubert de Milly s'il pense qu'en Afrique, puisqu'il la connaît bien, le défi va pouvoir être relevé.
Écoutez, on l'espère tous. Hein. Effectivement, moi-même, j'ai passé plus de 10 ans dans différents pays d'Afrique. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui y concourent. Les nouveaux objectifs qui ont été annoncés ce week-end nous disent quelque chose. Et peut-être qu'ils changent un petit peu, même je dirais, le paradigme général. Jusqu'à présent, on a beaucoup travaillé sur les priorités. Il faut faire ci, il faut faire ça. Aujourd'hui, on a 17 objectifs. On a 169 cibles. Oui. La première réaction, c'est de dire, mais c'est une usine à gaz, oui, c'est pas possible.
Ça brouille pas un peu les pistes.
Ça brouille un peu les pistes. Et puis, en fait, on s'est dit, mais non, ils ont raison. Ce qui est derrière tout ça, c'est une vision. Une vision d'un cadre de vie prospère, durable pour l'humanité tout entière. Et s'il y a une chose qui manque, eh bien, c'est l'ensemble, c'est la société ne se développe pas. Si la gouvernance n'est pas bonne, la société ne se développera pas. Et ça, je trouve que ça remet en perspective et ça permet de voir différemment la notion de priorité. Tout le monde a voulu faire de l'éducation, de la santé. Personne ne s'est précipité pour aider la ville de Bamako à traiter les ordures, les eaux usées. Enfin, il y en a qui l'ont fait quand même, mais c'est moins attirant. Alors que, eh bien, il faut s'occuper de tout. Finalement, c'est comme un moteur de voiture. S'il y a une pièce qui marche pas, c'est l'ensemble qui marchera pas. La mise en perspective est vraiment intéressante. Et puis, il y a des choses nouvelles dans les ODD qu'on connaissait, mais qu'on a dit. Tous les pays du monde se sont mis d'accord pour dire que les inégalités à l'intérieur des pays sont un fléau et qu'il faut les corriger. C'est énorme. C'est extraordinaire.
Alors, on va peut-être expliquer ce que c'est que ces ODD qui vont prendre la relève des OMD dont on a fait justement le bilan ce week-end, avec des perspectives manifestement tout aussi ambitieuses, élimination de la pauvreté d'ici 2030, forte réduction des inégalités partout dans le monde, fin de la discrimination contre les femmes, gestion efficace du changement climatique. On reste alors, vous avez l'air de dire que non. On reste dans le même esprit, mais on prolonge l'échéance, mais il y a quelque chose de plus qui se met en place, Frédéric Roder?
Je pense qu'il y a une nouvelle qualité, vraiment une nouvelle vision qui a été décrétée ce week-end avec ces objectifs de développement durable. C'est que tout d'abord, il faut avoir une vision intégrée. Donc on ne peut pas lutter contre l'extrême pauvreté et laisser de côté les changements climatiques, par exemple, parce que les aspects de préservation de la planète n'était pas très bien intégré dans les objectifs du millénaire. Ce qu'on dit aussi, c'est que ce sont des défis auxquels nous tous on fait face, pas seulement les pays du Sud. Donc les objectifs de développement durable vont aussi s'appliquer à la France, par exemple. Ce sont des objectifs vraiment universels. Et en effet, ils sont très ambitieux, ils sont historiques, parce que si avec les objectifs du millénaire, on voulait faire un peu mieux, réduire l'extrême pauvreté, lutter contre les pandémies comme le sida. Aujourd'hui, on veut aller au bout des choses. Donc on veut vraiment, on vise l'éradication de l'extrême pauvreté. On vise l'éradication de la pandémie du sida ou du paludisme. Donc on va bien plus loin et ça va demander bien sûr plus d'efforts, parce que maintenant il faut vraiment que, par exemple, qu'on arrive à atteindre les plus pauvres parmi les plus pauvres, qu'on aille, par exemple, qu'on ait les mêmes progrès dans les États fragiles ou en conflit que dans des économies émergentes. Mais je pense que c'est possible, parce que même si on dit que le succès des objectifs du millénaire est beaucoup dû à l'Asie, par exemple, c'est pas tout à fait vrai, parce que ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 2000, il y a eu une accélération vraiment impressionnante, notamment en Afrique subsaharienne, où bien évidemment, en quelque sorte, la base de référence était bien moins bien qu'en Asie. Et si on regarde, par exemple, les chiffres d'éducation primaire, les plus grands progrès ont été atteints en Afrique subsaharienne. Donc on peut atteindre ces progrès même dans les pays les plus pauvres, et c'est tout à fait réaliste de se doter d'objectifs aussi historiques que les objectifs de développement durable.
Si je vous comprends bien, on passe pour d'objectifs pour les autres, on va dire, à des objectifs pour tous, puisque pour le développement durable, la lutte contre le réchauffement climatique affecte tous les pays sans distinction de taille ou de fortune. Vous pensez que ça va accélérer le mouvement, Hubert Demilly?
Oui, moi je le pense. Là-dessus, je suis assez optimiste. On sent une prise de conscience. On sent une espèce de convergence de tous les soucis depuis le climat qui rejoint l'environnement, le financement du développement qui rejoint la conférence de New York, la COP21 au mois de décembre pour parachever le tout. On sent quand même une prise de conscience dans la communauté internationale. Moi, je trouve ça assez intéressant. Alors, pour les pays comme la France, c'est intéressant à double titre. D'abord parce que effectivement, nous devons atteindre les objectifs pour la France, en tant que France, puis en tant qu'Europe aussi, mais aussi parce que nous avons pris une responsabilité particulière d'aider les pays en développement également à les atteindre. Et ça reste le rôle de l'aide au développement, et ça reste une forte légitimité pour les agences d'aide comme nous.
Alors, parlons argent, puisque la réalisation de ces objectifs coûterait, je l'ai lu, entre 3 300 et 4 500 milliards de dollars, c'est entre 3 000 et 4 000 euros environ, milliards d'euros, c'est ce qu'estiment en tout cas les analystes. Vous êtes d'accord sur ces chiffres-là, à peu près? Oui, de toute façon, ils sont tellement énormes.
Pas forcément, que... oui.
Mais en tout cas, on sait que la France a réduit son budget de coopération. Est-ce qu'on va avoir les moyens de nos ambitions, Hubert Demilly?
Écoutez, je le souhaite, Mais là-dessus, on a besoin de soutien populaire, on a besoin des ONG. Je rappelle que les budgets, ils se votent par le Parlement. Les parlements sont l'émanation de la population. Ils sont influencés par les faiseurs d'opinion, comme les associations, les ONG. Nous sommes une agence, on a ce qu'on nous donne. Ouais. C'est vrai que les budgets n'ont pas été à la hausse, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis ces dernières années.
Alors, demandons à l'ONG la baisse de l'aide publique au développement, ça va être problématique pour l'action qui est menée ?
C'est déjà un grand problème. L'aide publique au développement, le développement de la France a baissé de 15% depuis 2011. Et bien évidemment, on compte sur la France, qui reste un des grands pays donateurs, pour relever ce défi des objectifs de développement durable. Mmh. D'autant plus que la France organise la COP21, donc les négociations sur le climat. Donc, une raison de plus d'être exemplaire. Le président vient d'annoncer de vouloir augmenter l'aide publique au développement. On attend les détails, parce qu'il faut vraiment que cette hausse soit significative, parce qu'on est dans une baisse depuis 2011, donc il faut déjà rattraper cette baisse. Et même en rattrapant cette baisse, on est loin du compte. La France, depuis des années, et encore cette année, a réaffirmé son engagement d'allouer 0,7% de sa richesse nationale à l'aide publique au développement. Le Royaume-Uni, par exemple, y arrive déjà depuis 3 ans. La France aujourd'hui est à 0,36, donc presque la moitié de l'objectif décrété. Donc il faut vraiment qu'elle redouble des efforts. Mmh. Et comme je disais tout à l'heure, il faut que cette aide cible en priorité les pays les plus pauvres.
Mmh. Alors je disais, c'est un autre problème dans un rapport, que la bataille contre la pauvreté ne sera gagnée que si les pays en développement renouent avec une croissance dit ce rapport durable et inclusive. Quand on voit à quel point finalement la croissance est difficile à retrouver et qu'elle est parfois en contradiction avec le développement durable, est-ce que c'est pas un vœu pieux, Hubert de Milly?
Alors, si c'est la croissance pour dégager des marges de manœuvre budgétaires à allouer au budget d'aide publique au développement, on peut quand même se poser la question. D'autres pays qui vont pas beaucoup mieux que la France, je pense notamment au Royaume-Uni, ont fait des efforts considérables, ont pris le sujet très au sérieux. Le Royaume-Uni est le premier, depuis très longtemps, des pays, des grands pays développés, des membres du G7, qui ont décidé d'atteindre et qui ont atteint l'objectif de 0,7%. Si le Royaume-Uni peut le faire, quelque part, on se dit que la France pourrait effectivement faire un peu mieux.
Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Roder?
Tout à fait. En plus, il y a l'Allemagne qui a déjà annoncé des hausses importantes de son budget d'aide au développement. Aussi l'Italie, qui elle aussi a traversé une crise financière. Donc, en fin de compte, cette question du budget d'aide publique au développement n'est pas vraiment une question budgétaire. C'est une question de volonté politique. Et on espère que la France fera preuve de cette volonté politique, parce que dans 2 jours, elle va présenter son budget pour 2016. Et c'est là qu'il faudra absolument que l'aide au développement augmente, pour que les objectifs de développement durable ne restent pas lettre morte.
Mmh. On suivra avec intérêt cette réunion. La Chine a été le moteur, on le disait tout à l'heure, enfin l'Asie de manière générale, des objectifs du millénaire pour le développement. Quel pays sera en pointe pour mener à bien les nouveaux, peut-on dire ?
Écoutez, on compte effectivement beaucoup sur les pays émergents. Jusqu'à présent, on contribuait à l'aide au développement essentiellement les pays de l'OCDE. Les choses sont en train de bouger un peu. La Chine fait des annonces. Derrière la Chine, d'autres pays aussi ont compris que c'est en participant à l'effort mondial que l'on s'affirme comme une grande puissance.
Bon,
ça, c'est assez encourageant.
Rendez-vous dans 15 ans pour faire un nouveau bilan des objectifs qui sont désormais en cours. Merci à tous les deux. Frédéric Roder, responsable plaidoyer de l'organisation One France, et puis Hubert de Milly, expert sur l'aide publique au développement à l'AFD, l'Agence française de développement. Merci également à Florence Pons qui a préparé cette émission, Valentin Vanner qui l'a réalisée et Emmanuel Sévin à la documentation. Demain c'est mardi politique avec Marine Le Pen, et puis mercredi, après une grande manifestation européenne des personnes handicapées, on se demandera si ces personnes handicapées sont suffisamment prises en compte. Le débat, c'est tous les soirs sur RFI à 19h40 de Paris. Bonsoir à tous. Un nouveau journal sur la Radio Mondiale dans quelques secondes.